France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui, la Grande Loge de France. Bonjour à toutes et à tous. Notre émission de ce jour sera consacrée à l'initiation en Grande Loge de France sous un angle à la fois vivant et singulier, celui de sa jeunesse. Dans un monde en mouvement constant où les repères évoluent et les questionnements s'intensifient, comment la jeunesse s'empare-t-elle de la quête de sens? Et que vient-elle chercher dans une démarche initiatique? La franc-maçonnerie, institution séculaire, peut-elle lui offrir un espace pour se retrouver et s'engager autrement? Jeunesse et franc-maçonnerie, loin des idées reçues, une impulsion nouvelle traverse les loges de la Grande Loge de France, où de jeunes initiés trouvent aujourd'hui toute leur place. Mais pourquoi choisissent-ils ce chemin? Et quel sens cela prend-il dans un monde où tout semble à la fois plus connecté et plus dispersé que jamais? La franc-maçonnerie propose-t-elle, à sa manière, une réponse à cette tension entre l'individu et le collectif, une voie discrète mais exigeante qui conjugue introspection, fraternité et engagement? Aujourd'hui, ce sont de jeunes frères récemment initiés qui viennent partager leur expérience aux côtés d'un frère plus ancien pour croiser les regards et les générations. Ensemble, nous tenterons de comprendre ce que peut signifier être jeune et franc-maçon. Alors pour en parler, nous recevons donc deux jeunes frères, Thibaut et Maxime. L'un est apprenti, il a 23 ans. L'autre, tout juste compagnon, a été initié à l'âge de 28 ans. Et à leur côté, Philippe Jacolin, un frère bien connu de la Grande Loge de France, qui travaille étroitement avec Brice Châtel, délégué à la jeunesse de notre obédience. Cher Maxime, cher Thibaut et cher Philippe, bonjour.
Bonjour Clément. Merci Clément pour l'invitation.
Alors j'évoquais l'initiation en franc-maçonnerie, en Grande Loge de France, on pourrait même dire au rite écossais ancien et accepté. Mais vous, qu'est-ce qui vous a poussé un jour à frapper à la porte du temple, cher Maxime?
Alors, je dirais qu'à la fin de mes études, j'ai cherché à me ménager un espace et un temps loin du quotidien pour poursuivre ma formation à la fois intellectuelle, morale, mais aussi spirituelle. Et c'est pour ça que je me suis orienté vers la franc-maçonnerie que je connaissais par mes grands-parents, qui sont tous les deux francs-maçons. J'ai souhaité prendre le temps de la réflexion en lisant énormément, en participant à des conférences publiques, en rencontrant des frères et des sœurs de différentes obédiences et pratiquant différents rites pour vraiment être sûr de mon choix. Et après avoir assisté à une conférence publique du grand maître Thierry Zaveroni, j'ai déposé tout simplement une candidature spontanée, un petit papier dans une urne, rue Puteaux à Paris.
Cher Thibaut, et vous, comment avez-vous frappé à la porte de ce temple maçonnique?
Alors je crois que dans mon cas, j'ai toujours eu une certaine appétence et un intérêt pour réflexion, disons, spirituelle et philosophique. Et à un certain moment de ma vie, ça s'est intensifié. Je me suis fait faire baptiser à l'Église catholique. Peu de temps après cette période, j'ai eu une discussion avec un ami de la famille d'ordre philosophique. Et je pense qu'il a dû sentir une certaine, voilà, un certain intérêt, une certaine appétence pour ces sujets-là. Et donc, il m'a demandé si je savais ce que c'était que la franc-maçonnerie. J'ai répondu très honnêtement que j'avais quelques a priori de par mon cercle de fréquentation actuel, enfin que j'avais à ce moment-là, qui était catholique et qui, je pense, connaît très mal ce sujet. Il m'a rassuré, il m'a expliqué ce que c'était et j'ai dit qu'effectivement j'étais intéressé et il m'a parrainé pour entrer en franc-maçonnerie.
Parce que vous évoquez la religion catholique, mais la démarche maçonnique est adogmatique. Il faut peut-être en parler aussi un peu aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment.
Oui, tout à fait. La franc-maçonnerie n'est pas une religion puisqu'elle est adogmatique. Elle ne prétend pas avoir détenir la vérité et l'enseigner. C'est plus une démarche de réflexion et de recherche.
Donc un par un, une candidature spontanée avec Maxime. Cher Philippe Jacolin, on le voit, il y a plusieurs façons d'aborder cette première démarche. Comment peut-on faire ce premier pas vers la Grande Loge de France?
Alors effectivement, cher Clément, il y a plusieurs façons d'aborder cette démarche, en tout cas concrètement, au-delà des raisons proprement dites et qui sont propres à chacun. On l'a vu au travers de témoignages de Maxime et Thibaut. Alors la première d'entre elles, c'est... coutume de l'appeler la cooptation. Alors c'est un terme que j'utilise parce que il est utilisé de manière un petit peu habituelle, mais c'est pour mieux m'en affranchir, voire pour le récuser, car c'est un terme qui est connoté à une adhésion finalement qui s'apparente à une formalité. Et donc ça renvoie à deux idées fausses qu'il est important de déconstruire. La première idée fausse, c'est que ça ne nécessiterait pas forcément d'implication de la part du postulant, alors que c'est une démarche qui est un véritable engagement, un engagement à part entière, qui implique l'être tout entier. On prête des serments, on passe à travers un certain nombre d'étapes qui font qu'on ne peut pas faire cette démarche, on va dire, à la légère. La deuxième idée fausse, c'est que c'est une adhésion qui serait finalement acquise puisque on est présenté par quelqu'un et que bah du coup y a pas trop d'enjeu sur l'issue même de la démarche, alors que c'est un processus qui en fait est le même pour tout le monde hein, et ne préjuge pas du tout de l'issue positive du terme de la démarche. Alors je préfère le terme d'orientation parce que c'est un sens qui renvoie l'idée de situation, de voie, de direction et s'orienter. Hein, on dit bien s'orienter, c'est-à-dire se positionner par rapport au lever du soleil, donc à la naissance de la lumière. Je pense que c'est une approche qui va parler à beaucoup de monde.
Alors vous parlez d'orientation, de parrainage, de cooptation, on entend bien les différences, mais on peut avoir, comme pour Maxime, donc des candidatures spontanées. Comment concrètement, un auditeur qui aujourd'hui nous écoute et veut adhérer et rejoindre la Grande Loge de France, comment peut-il faire ?
Alors, tout à fait, vous avez raison. On a coutume de dire, quand le disciple est prêt, le maître apparaît, mais parfois, le disciple est prêt et le maître n'est pas là. Et donc, du coup, eh bien, il faut peut-être forcer un peu le destin. Et donc, la candidature spontanée est là pour ça. Et mon cher Clément, là, c'est pour le petit clin d'œil, mais vous le savez tous, on est quelques-uns à avoir à utiliser cette candidature spontanée, moi le premier. Et donc, il suffit d'envoyer un mail ou de remplir un formulaire sur le site de la Grande Loge de France. Et puis, la candidature suivra son cours à partir du moment où la démarche est fondée, qu'elle est sincère et authentique.
Alors, cher Maxime, cher Thibault, on le comprend, vous avez frappé et la porte s'est ouverte, vous avez été initié. On ne va pas révéler de secrets, mais qu'avez-vous vécu le soir de votre initiation ? Pouvez-vous peut-être évoquer, je ne sais pas, un souvenir, un moment, peut-être un symbole, cher Maxime ?
Oui, je parlerai de trois choses. Je commencerai par évoquer la chaleur, l'intensité du moment. Une chaleur vécue, je crois, avec mes deux jumeaux, puisqu'on a été initiés à trois. Ensuite, j'évoquerai volontiers les miroirs, car on a plusieurs miroirs le soir de notre initiation, qui permettent un temps d'introspection et une réflexion sur sa vie passée, sur sa vie profane. Car j'ai vécu vraiment l'initiation comme un moment de rupture. J'ai senti que ma vie ne pouvait plus reprendre son cours normal, avec toutes les errances que le quotidien amène parfois. Pour citer Saint-Exupéry, rien n'avait changé, tout était changé.
Il y avait un avant et un après.
Tout à fait.
Et vous, cher Thibault ?
Bien, sans rien révéler, bien sûr, je dirais que ce qui m'a le plus marqué, ce sont d'abord les yeux bandés, le fait qu'on entre dans un environnement un peu mystérieux, peut-être même un peu effrayant. Mais justement, ce qui m'a marqué, c'est la main de mes frères posée sur mes épaules, qui me donnait le courage d'avancer et qui a fait que, peu importe le déroulé, je me suis toujours senti en sûreté. La deuxième chose qui m'a effectivement frappé, c'est au tout début, certains signes, certains motifs alchimiques qui m'ont effectivement surpris parce que j'ai découvert plus jeune ce que c'était que l'alchimie. J'ai vu ça comme un clin d'œil.
Alors, cher Philippe Jacolin, Thibault évoque l'alchimie. On le comprend, le symbole est au cœur des démarches initiatiques dès le soir de l'initiation à la Grande Loge de France. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce monde nouveau, ce monde symbolique ?
Absolument, Clément. Le symbole, effectivement, il est au cœur de la démarche. Je dirais même que c'est le cœur du réacteur, quelque part. Hein. Le corpus symbolique qui est proposé à notre sagacité en Grande Loge de France, hein, qui pratique donc exclusivement le rite écossais ancien accepté, il est extrêmement riche. Il est composé en premier lieu, bien entendu, de la symbolique des bâtisseur de cathédrale, mais il va puiser dans l'alchimie. Thibault vient d'en parler, c'est extrêmement riche aussi hein, comme apport, mais il y a la voie chevaleresque et puis ça ne se limite pas à tout ça, il y a aussi tous les contes, les mythes, les légendes à partir du moment où l'initié va s'apparenter, va se projeter dans cette dimension et va faire ressortir cette part cachée en lui-même.
Vous évoquez un peu tous là des symboles du soir de votre initiation, mais cher Philippe, est-ce qu'il n'y a pas cette dimension secrète à cette démarche initiatique ? Qu'est-ce qu'on peut révéler ? Quel est ce secret maçonnique ?
Alors, le secret, c'est le grand sujet, hein, effectivement, un peu peut-être le marronnier, mais aujourd'hui, si vous faites une recherche sur Google, vous trouverez tout ce qu'il y a à savoir d'un point de vue des rituels et puis des us et coutumes maçonniques. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il n'y a plus vraiment de secret à préserver. Le vrai secret, on le sait, c'est celui qui va toucher toute cette part intime en chacun de nous. Vous le voyez, quand Thibaut et Maxime s'expriment, ils vont parler au travers de sensations, au travers de choses comme ça, parce que on touche du doigt le domaine de l'indicible. Et là est le véritable secret de la démarche initiatique proprement dite.
Alors, je voudrais revenir sur cette initiation en Grande Loge de France et votre jeunesse, à vous Maxime et Thibaut. D'ailleurs, l'âge compte-t-il ? Comment vivez-vous en loge avec vos frères, peut-être cette différence d'âge, cher Thibaut ?
Alors moi, personnellement, j'ai assez de chance puisque j'ai une loge qui est assez jeune. Beaucoup de frères ont autour de 30 ans, ce qui facilite les interactions. Dans tous les cas, j'ai de très bons rapports avec tous les frères, peu importe leur âge. Et puis, selon les sujets de conversation, je vais parfois préférer parler avec qui partager sur certains sujets. Et puis, on cherche des profils en franc-maçonnerie divers pour pouvoir nuancer nos idées, progresser. Et l'âge est une diversification en soi, est un facteur de diversification.
Et de diversité. Cher Maxime, vous évoquiez que votre grand-père était présent à votre initiation et un environnement lié avec votre grand-père et donc une différence d'âge. Et votre grand-père est devenu votre frère.
Tout à fait, ma grand-mère est devenue ma sœur aussi. Ce qui, bien sûr, offre une nouvelle dimension à cette relation. Mais au-delà de ça, et je serais complètement d'accord avec Thibaut, je dirais que la fraternité en loge permet d'effacer les clivages et de parler à tous, quel que soit leur parcours. C'est l'une des richesses de la Grande Loge de France et de la démarche initiatique en général, que de nous faire rencontrer des profils qu'on n'aurait pas forcément rencontrés dans notre vie profane. Nous travaillons tous ensemble sur des sujets symboliques et ça nous lie à ceux qui nous ont précédés et à ceux qui nous rejoindront par la suite.
Cher Philippe, l'âge est donc au cœur, on le comprend, de la démarche maçonnique. On peut même dire que de degré en degré, les frères ont tous le même âge. Qu'est-ce que cela signifie au fond ?
Alors je vous parlais tout à l'heure, enfin à l'instant, du rite écossais ancien accepté, qui est le rite exclusivement pratiqué au sein de la Grange de France. Ce rite a 33 degrés et donc inscrit celui qui le pratique au travers d'une démarche progressive de construction de lui-même. Chaque degré correspond à un âge symbolique. Et en fait, ce qui fait la force de cette démarche, c'est que tout le monde est sur le même pied d'égalité à chaque degré qu'il pratique avec ses coreligionnaires. Quel que soit son âge, son origine sociale, ethnique, etc. Et ça, c'est un élément absolument intéressant et essentiel parce que c'est ce creuset de diversité, finalement, qui va faire que chaque participant est confronté au même mystère initiatique et ça crée ce formidable sentiment de partage qui favorise la fraternité, qui est aussi un pilier de notre démarche.
Cher Thibaut et cher Maxime, alors on l'a dit, vous êtes jeune, au début de votre vie d'adulte, vous construisez votre vie professionnelle, votre vie familiale. Est-ce que c'est pas un peu étonnant de s'intéresser à un ordre initiatique tel que celui proposé par les francs-maçons ? Est-ce que c'est pas même un peu ringard, franchement, cher Thibaut ?
Pour que quelque chose devienne ringard, elle doit nécessairement avoir déjà connu un grand succès et devenir omniprésente pour pouvoir après devenir ringard. Ce n'est pas le cas avec la franc-maçonnerie.
Maxime.
Oui, je suis d'accord. Et puis, de toute façon, la démarche initiatique, je pense, n'a ni âge ni époque, puisqu'on réfléchit ensemble aux grandes questions qui agitent tout homme. Le rite écossais, on l'a dit, est une méthode progressive qui va nous accompagner et orienter notre vie vers plus de sagesse, de justice et de bienveillance. C'est donc absolument pas ringard, et je dirais même que le plus tôt, le mieux.
Cher Philippe Jacolin, on le comprend, et finalement, ironie de l'histoire, la tradition maçonnique est finalement très moderne.
Absolument. Vous mettez en relief, en fait, cette dichotomie apparente, hein, en tout cas, entre la tradition au sein de laquelle on va puiser tout notre corpus symbolique dont je parlais, et puis ce monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui, qui est un monde hyper connecté, très technologique. On envoie des sondes sur Mars, on crée une intelligence artificielle. Donc, on peut légitimement se poser la question de la pertinence de cette démarche. Mais finalement, l'être humain d'il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, hein, celui que on a extrait de fouilles archéologiques et qui montrait cet homme de Néandertal qui enterrait ses proches, la tête en général tournée vers l'Orient. J'en ai parlé tout à l'heure de l'Orient, là où le soleil se lève. Donc finalement se poser ces questions existentielles dont aujourd'hui, on n'a toujours pas les réponses. Donc fondamentalement, l'être est le même. Donc cette démarche est toujours fondamentalement et d'une brûlante actualité.
Vivante et moderne. Alors pour finir, je voudrais revenir au soir de votre initiation. Et peut-être en un mot, il y a au cœur de la démarche maçonnique une quête de la lumière Qu'est-ce qu'elle signifie pour vous, en un mot, cette lumière, cher Thibault ?
Bien, pour moi, c'est la connaissance, la vérité, que bien sûr, on n'arrivera pas à atteindre dans cette vie en tout cas, mais qu'on peut chercher à approcher.
Et vous, cher Maxime ?
Au point où j'en suis dans mon parcours, j'aurais bien du mal à mettre des mots sur cette lumière, sinon peut-être le mot amour. Tout ce que je sais, c'est que cette lumière me procure une immense joie et éclaire ma vie dans et en dehors de la loge.
Décidément, cher Philippe Jacolin, la jeunesse, dès le premier degré, a tout à nous transmettre aussi. Qu'en pensez-vous ?
Absolument, mon cher Clément. La transmission, souvent, on a coutume de dire qu'elle est à sens unique. La vraie force de cette démarche initiatique, c'est un courant continu qui est à double sens. Aujourd'hui, le monde a fondamentalement besoin de se réenchanter et ça commence par à se réenchanter soi-même et c'est tout le projet de la Grange de France.
Merci beaucoup cher Maxime, cher Thibault et Philippe Jacolin. Pour conclure, comme à chaque émission, nous évoquons une loge de la Grande Loge de France. Son nom, jamais choisi au hasard, dit quelque chose de l'histoire de ses frères, de l'âme de notre obédience et parfois même d'une certaine vision du monde. Aujourd'hui, nous souhaitons rendre hommage à la loge Les Éternels Apprentis à l'Orient de l'Étang de Berre dans les Bouches-du-Rhône. Les Éternels Apprentis, un nom qui résonne comme une promesse, celle que l'initiation n'est pas un aboutissement mais le début d'un voyage. Être un éternel apprenti, c'est accepter que la lumière se cherche pas à pas, que le savoir véritable ne se possède jamais, mais se cultive dans l'humilité, l'écoute et le doute. Les Éternels Apprentis, ce nom trouve un écho particulier dans la jeunesse, car les jeunes frères, et on l'a entendu aujourd'hui, en rejoignant nos loges, incarnent avec force cette énergie du renouveau, cette soif de sens et ce besoin de transmission. Ils nous rappellent que la franc-maçonnerie, comme la vie, est une école où l'on ne cesse jamais d'apprendre de soi, des autres et du monde. Rendre hommage aux Éternels Apprentis, c'est saluer cette fidélité à la quête, cette volonté de se transformer sans relâche, quel que soit l'âge ou le degré. Et peut-être, en fin de compte, de rester à jamais des chercheurs de lumière, des éternels apprenants. Dans l'actualité de la Grande Loge de France, de nombreuses conférences et événements programmés dans les prochaines semaines et que vous retrouvez sur notre site gldf.org. C'était les divers aspects de la pensée contemporaine de la Grande Loge de France, une émission préparée et présentée par Clément Ledoux. À la technique aujourd'hui, François Saint-Jour, à la réalisation Jean-Christophe Francis et à la préparation Claire Poinsignon. Très bon dimanche à tous.